à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 21 décembre 2018. Fin de la campagne électorale en République démocratique du Congo au lendemain du report d'une semaine des élections programmées à présent pour le 30 décembre. Un avion chargé d'acheminer du matériel électoral s'est écrasé à l'atterrissage à Kinshasa après avoir livré des fiches à Tshikapa. L'armée camerounaise a abattu un commandant séparatiste anglophone. Donald Trump menace les agences fédérales de fermeture temporaire si les démocrates refusent de financer le mur à la frontière avec le Mexique. Et la Minute Éco et les sports, ce sera juste après le journal. On débute ce bulletin avec les nouveaux développements en République démocratique du Congo. Depuis l'annonce du report d'une semaine des élections présidentielles et législatives faite hier par le président de la commission électorale Corneille Nanga, prévue pour le 23, les scrutins ont été reportés au dimanche 30 décembre. Jusqu'ici, l'annonce a été accueillie dans le calme. La campagne électorale pour ces élections cruciales pour l'avenir du pays se termine aujourd'hui. Le point avec Idriss Fall.
La vie a repris son cours normal à Kinshasa au lendemain de l'annonce du report d'une semaine des élections. La CENI explique ce report par des problèmes techniques. L'incendie de son entrepôt le 13 décembre à Kinshasa a porté un coup dur au processus. La CENI affirme avoir commandé en Corée du Sud 5 millions de bulletins pour les machines à voter qui doivent arriver demain, samedi, à Kinshasa. Les questions de logistique ont refait surface dans le crash d'un avion Antonov affrété par la CENI et qui a fait 6 morts ce vendredi. L'avion de la compagnie privée Gomer s'est écrasé en phase d'atterrissage à l'approche de l'aéroport Ngili de Kinshasa, après avoir livré du matériel électoral, notamment des fiches de résultats à Tshikapa, dans le centre du pays. Selon Corneille Nanga, président de la CENI, les élections sont reportées, mais la campagne s'arrête ce vendredi, conformément au calendrier initial. Le gouvernement a rencontré ce matin les diplomates basés à Kinshasa pour réaffirmer qu'il n'y aura pas de chaos après les élections du 30 décembre.
Au lendemain de l'annonce du report d'une semaine des élections en République démocratique du Congo, la coalition CAP pour le changement de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe a fait une déclaration ce vendredi, lue par Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS.
Le CAP pour le changement CASH a suivi avec consternation l'annonce en ce jour par M. Corneille Nanga du report au 30 décembre 2018, bien avant l'annonce du report de scrutin. Il a été constaté d'une part une militarisation à outrance à travers le territoire national et d'autre part la violation de la loi électorale par certains gouverneurs de province, dont celui de Kinshasa, qui se sont permis d'écourter la campagne électorale. Le CASH réaffirme sa position d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Condamne avec la dernière énergie cette énième forfaiture et prévient qu'il n'acceptera pas un autre report, même d'un jour. Affirme poursuivre sa campagne jusqu'à 24 heures du scrutin, conformément à l'article 28 de la loi électorale, soit le 28 décembre 2018 à minuit.
Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'UDPS. Quant à l'autre candidat d'opposition, Martin Fayoulou, il n'a fait jusqu'ici aucune communication sur le report des élections. Au lendemain de ce report du scrutin, Goma, capitale du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, s'est réveillée dans le calme ce matin avec une présence policière dans tous les points chauds de la ville. Une manifestation du mouvement Lucha contre ce report a été interdite. Le point avec notre correspondant Charlie Kazereka.
Ces jeunes du mouvement Lucha ont tenté de mener une manifestation devant les bureaux de la CENI Nord Kivu pour, disent-ils, dénoncer les reports des élections qui étaient prévues pour ce 23 et repoussées au 30 décembre. Avant même que la marche ne soit lancée, la police les a dispersés alors qu'ils tenaient la réunion de préparation. Dans la ville, toutes les activités tournent normalement. Des embouteillages mêlés aux musiques de campagne ainsi qu'aux cris des vendeurs ambulants dans le cadre des préparatifs des fêtes de fin d'année. Ce 21 décembre est le dernier jour de la campagne électorale sur le calendrier initial de la CENI et donc l'ambiance électorale a continué normalement toute la journée à Goma. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Goma.
La décision de la commission électorale congolaise est en effet diversement appréciée. Un report d'une semaine est-il suffisant pour organiser des élections crédibles et transparentes? Notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdourahmane Dia, a posé cette question au politologue Kambayi Bouachi.
Une semaine pour quelque chose, pour un phénomène qu'on a préparé, dont l'issue est préparée, voici des années et des années. Une semaine, franchement parlant, c'est insuffisant, une semaine. Nous avons cette affaire de machine à voter, nous avons cette affaire de bulletin, nous avons eu cette affaire de recensement, nous avons eu cette affaire de connaître là où il faut aller voter, nous avons cette affaire de provinces entières qui ne peuvent pas voter parce qu'il y a eu des troubles et des guerres. On est dans un phénomène de frustration. La frustration met au monde la violence. C'est toujours comme ça.
Le président de la CENI, Corné Nanga, évoque également l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays et également l'instabilité et l'insécurité.
Encore une fois, qu'est-ce que Ebola a à faire avec la préparation des élections? Ebola, c'est une affaire de la santé publique. La politique, c'est une question de gestion. Laissez Ebola de côté. Regardons. Ebola peut peut-être déranger la poursuite. Mais ça n'a rien à voir avec le déroulement normal des élections.
C'était l'analyste politique congolais Kambayi Bouachi. Il était interviewé par notre envoyé spécial à Kinshasa, Abdourahmane Dia. Au Cameroun, le commandant des forces de défense d'Ambazonie, milice séparatiste anglophone, a été abattu ce vendredi par l'armée. Les sécessionnistes combattent les forces régulières dans le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Notre correspondant Emmanuel Julentap nous en dit plus.
Le chef séparatiste général Aïvo a été abattu. Ce sont là les termes d'une note confidentielle de l'armée camerounaise dont VOA Afrique a obtenu copie. Il a été abattu tôt ce matin au cours d'un raid à Teke, une localité située non loin de Kumba, dans la région du sud-ouest, précise la même note de sécurité. Aussitôt, la nouvelle de la mort du chef des troupes des sécessionnistes confirmée, certains leaders séparatistes lui ont rendu hommage. Général Aïvo est mort au combat, a écrit sur son compte Facebook Ayabacho, l'un des leaders sécessionnistes. C'était un redoutable combattant, a commenté pour sa part dans un bref communiqué Bénédicte Kwa, porte-parole de l'Ambazonia Defense Council, une autre milice séparatiste dans un anglophone. Le corps de celui qu'on surnommait Général Aïvo, l'ennemi numéro un de l'armée camerounaise, a été transféré à la base militaire du BIR, le bataillon d'intervention rapide, à Boya, pour identification. Yaoundé, Emmanuel Jelumtap, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump menace plusieurs agences fédérales de fermeture temporaire, communément appelées « shutdown ». Si les démocrates du Congrès refusent de financer un mur à la frontière avec le Mexique, le point avec Nani Talani.
La date butoir est ce soir à minuit, heure de Washington. S'il n'y a pas de compromis entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget 2019, certaines administrations fédérales vont fermer et mettre des dizaines de milliers de fonctionnaires en congé sans solde. Des ministères comme la Sécurité intérieure, la Justice et le Département d'État en subiront les conséquences. Le mur est une promesse de campagne du président Trump pour lutter contre l'immigration clandestine. Le financement de ce mur est devenu la condition sine qua non pour qu'il ratifie le budget fédéral 2019. La Chambre des représentants à majorité républicaine a approuvé hier soir un nouveau texte qui va dans le sens des exigences du président, incluant un financement à hauteur de 5,7 milliards de dollars. Ce projet n'a aucune chance de passer au Sénat, où 60 votes sont nécessaires alors que les républicains ne contrôlent que 51 sur les 100 sièges. Et si les démocrates refusent de voter, le président menace d'un long shutdown. C'est une course contre la montre qui est engagée. À partir du 3 janvier 2019, la Chambre des représentants sera dominée par les démocrates opposés à la construction d'un mur de séparation à la frontière avec le Mexique.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. On revient avec Nani Talani qui nous présente la Minute Éco, c'est l'actualité économique en Afrique.
La Côte d'Ivoire annonce que la campagne de commercialisation du café 2018-2019 débutera le 24 décembre d'après Ecofin. La saison s'ouvrira à un prix minimum garanti de 700 francs CFA par kilogramme, tarif rendu possible grâce à un soutien de plus de 21 milliards de francs CFA du gouvernement ivoirien. S'il fallait tenir compte de l'équilibre et du contexte international, le prix fixé serait de 533 francs CFA. En 2017-2018, la Côte d'Ivoire a produit 123 924 tonnes de café. En Zambie, la société canadienne First Quantum Minerals a déclaré qu'elle va licencier 2500 travailleurs à la suite de la décision des autorités d'augmenter les taxes minières et d'introduire de nouveaux droits miniers à partir de janvier 2019. Ces licenciements font craindre une nouvelle tension entre le gouvernement et l'industrie minière, qui représente plus de 70% des recettes en devises du pays. La FEQM estime que la Zambie se retire du marché minier mondial avec les hausses de taxes proposées pour réduire sa dette publique croissante.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Phase retour de la Coupe CAF. Le Salitas devrait confirmer à Ouagadougou.
Oui, le représentant burkinabé Salitas FC sera face à Al Masry d'Égypte ce samedi au stade du Katuta Ouagadougou pour le compte de la phase retour des 16e de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF Total. À l'aller à Port Saïd en Égypte, Salitas FC avait fait forte sensation en dominant le club égyptien par 2-0. Maintenant, il s'agit de confirmer cette belle performance à Ouagadougou. Demain donc, sous le coup de 16h au stade du 4 août, pour le compte de la phase retour des 16e de finale de cette Coupe de la Confédération.
À Abidjan, la SEC veut consolider son avance face au Stade malien.
Oui, vainqueur du Stade malien 1-0 lors de la manche aller des 16e de finale de la Ligue des champions à Bamako, la SEC Mimosa veut mettre tous les atouts de son côté pour assurer sa qualification pour la phase de poule ce dimanche donc au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La SEC compte sur ses supporters. 20 000 spectateurs sont attendus au Félicia pour ce match.
Une chance sur deux en Coupe de la Confédération, toujours en Côte d'Ivoire.
Le stade d'Abidjan ouvre donc le bal dès ce soir au stade Robert Champourou. Il avait perdu le match aller 3-0 face aux Tunisiens de l'Étoile du Sahel. Une mission assez compliquée ce soir donc pour ce club qui évolue en Ligue 2 ivoirienne depuis deux saisons. En revanche, le FC San Pedro, l'autre représentant ivoirien en Coupe de la Confédération, a besoin d'un petit but pour passer un cap ce samedi au stade Houphouët-Boigny contre le Daring Motema Pembe Imana de la RDC. Au match aller, le novice ivoirien avait fait mieux que se défendre au Congo avec un nul d'un but partout.
Et le Real à la conquête de la Coupe du Monde des clubs 2018.
Oui, les joueurs du Real Madrid, à l'exception de Marco Asensio, blessé, ont participé jeudi à une séance d'entraînement légère à Abu Dhabi, deux jours avant la finale du Mondial des clubs contre Al Ahly. L'ailier espagnol est le seul joueur du groupe madrilène à n'avoir pas pris part à la séance programmée par Santiago Solari, au cours de laquelle les titulaires du match contre les Kashima Antlers, 3-1, se sont contentés d'un travail de récupération après plusieurs heures de tourisme dans la capitale émirati.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Le président français Emmanuel Macron entame samedi une visite au Tchad. Des entretiens avec son homologue Idriss Déby Itno et une visite aux soldats de la force Barkhane sont prévus à son programme. Pour en savoir plus sur cette prochaine visite, Timothée Donangmaï a joint N'Djamena le politologue Gilbert Maoundo-Nodji.
Le Tchad est un partenaire et allié traditionnel de la France dans la sous-région d'Afrique centrale. Et à cause de la position géopolitique et géostratégique du Tchad, je pense que n'importe quel dirigeant par rapport à ses intérêts nationaux, par rapport aux questions, aux enjeux de l'heure, en lien avec la lutte contre le terrorisme, les phénomènes migratoires, les questions de changement climatique. Et je pense que sur ces terrains-là, le Tchad est un passage obligé pour les dirigeants qui font de ces enjeux des éléments de leur politique étrangère ou de leur politique nationale.
Et certains parlent aussi de la situation en République centrafricaine voisine qui serait préoccupante tant pour Paris que pour N'Djamena.
Mais c'est clair que du point de vue de la situation régionale, les menaces sur la paix, la sécurité, la stabilité régionale, la situation non seulement en République centrafricaine, mais en Libye, au Nigeria, au Cameroun, constitue un sujet de préoccupation pour la paix, la stabilité au niveau régional et bien entendu de plus en plus sur la République centrafricaine. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une stabilisation d'un côté, un processus de stabilisation de la situation sécuritaire interne en République centrafricaine, mais dans toute la partie septentrionale de la Centrafrique, les groupes armés sont toujours présents et par rapport à cette présence des groupes armés, il y a d'autres acteurs internationaux qui sont présents, donc notamment la Russie qui devient un allié stratégique et privilégié de la République centrafricaine et ça peut constituer un sujet de préoccupation pour la France, pour qui la RCA, autant que le Tchad, se trouve dans son pied carré.
C'était l'analyste politique Gilbert Maoundo-Nodji. Il était joint N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, comme dans de nombreux pays à dominante ou influence chrétienne, la vente de jouets, produits de décoration, sapins et plats préparés est très lucrative pendant la période qui précède la fête de Noël. Ce marché est contrôlé par les Chinois qui inondent le pays d'articles vendus à bas prix, permettant ainsi aux familles les moins nanties d'offrir des cadeaux aux enfants. Notre correspondant Emmanuel Julntap s'est rendu au marché central de Yaoundé. Voici son reportage.
Phil Diaz est un jeune élève de la classe de seconde à Yaoundé. Depuis le début du mois de décembre, il mène une petite activité commerciale dès la sortie des classes.
Qu'est-ce que tu vends là ?
Les boules dragon, les jouets de voiture, les tics de Noël comme ça.
Le bénéfice de Fidias n'est pas moindre. Par article, le jeune élève gagne parfois le double du prix d'achat.
Où est-ce que tu achètes ces produits-là ?
Moi, j'achète au marché central, face à l'immeuble rond, chez les Chinois. Les pistolets à 250, les voitures à 350, 600, ça dépend de la voiture aussi.
Ça veut quand même dire que les Chinois ont permis que les jouets puissent être moins chers aujourd'hui.
Oui, oui, oui. On peut aussi dire ça.
En prélude à la fête de Noël, le marché central de Yaoundé est une plaque incontournable pour l'acquisition des jouets. Karine vient de faire les emplettes pour son fils de 7 ans.
J'ai pris un piano pour mon fils là à 15 000 francs au marché.
Vous avez trouvé que c'est cher ou c'est moins cher?
Donc, moi, j'ai trouvé que c'est moins cher par rapport aux années passées. Les Chinois sont venus nous sauver, franchement. Du côté là, ils sont bien.
Les objets de décoration ne sont pas en reste. Ils connaissent aussi une chute de prix à cause des Chinois.
Pour la fête de Noël, je vends la décoration, donc c'est-à-dire sapin, guirlandes, jets de lumière.
Jean-Pierre est vendeur au marché central à Yaoundé.
On peut acheter ça à combien, les guirlandes par exemple?
On peut acheter à 100 francs, à montant jusqu'à 500 francs. Donc avec des boules, avec 500 francs, on a des boules 800 francs et 1000 francs.
Et le sapin en lui-même, il coûte combien?
Bon, le sapin, on peut le trouver à n'importe quel prix. Parce qu'il y a des sapins, on peut trouver un sapin à 2000 francs, 3000, jusqu'à plus de 5000.
Il y a quelques années, seuls les Camerounais nantis pouvaient s'offrir un sapin de Noël. L'ouverture du marché camerounais aux Chinois a changé la donne. Mais les commerçants camerounais tirent-ils réellement profit de cette situation?
Bon, les Chinois, au fur et à mesure, ils nous rendent la vie dure.
Merlin est vendeur de sapins au marché central de Yaoundé.
Ils nous vendent et ils sont aussi là, ils détaillent. C'est ça qui rend la vie dure au Camerounais.
Les commerçants chinois du marché central de Yaoundé, quoique courtois, n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question. Mais visiblement, ils réalisent de bonnes affaires pour la fête de Noël. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
La Belgique lutte encore pour faire face à son passé colonial, une période au cours de laquelle des millions d'Africains du Congo et du Rwanda sont décédés des suites de la maladie, de la famine et de la violence. Aujourd'hui, le musée africain du pays, qui abritait jadis des trésors coloniaux pillés et même un zoo humain, a fait l'objet d'un réaménagement de 73 millions de dollars sur 5 ans pour montrer la réalité de l'Empire et de l'Afrique moderne. Voici un reportage d'Henri Ridgewell, rendu par Arzuma Compaoré.
Véritable vitrine de l'Empire belge, le musée a ouvert ses portes en 1910 et magnifia la puissance belge et ses richesses coloniales. Un peu plus d'un siècle plus tard, les conservateurs de cette institution voient les choses différemment. Guido Grisil est le directeur du musée.
Notre objectif était de faire un musée de l'Afrique contemporaine, de l'Afrique d'aujourd'hui, tout en apportant un regard très critique sur le passé colonial de la Belgique. Nous reconnaissons maintenant les nombreuses victimes de la colonisation, les Africains victimes de la colonisation. Nous reconnaissons également que les attitudes racistes développées à cette époque ont aujourd'hui des conséquences.
Le parc abritait autrefois un zoo humain de plus de 250 Congolais. Sept sont décédés des suites du froid après avoir été obligés de porter des vêtements traditionnels. Sur ordre du roi Léopold II, le musée devait générer des fonds pour l'exploitation minière et la production de caoutchouc dans les colonies. Pour certains, son nom est synonyme de la brutalité de l'Empire. Mireille Tchussi-Robert est membre de l'organisation antiraciste Bamko Crane.
Lorsque le musée n'est pas un musée de la colonisation, mais un musée qui se présente comme un musée africain, ça brouille les pistes. Et donc justement, il faudrait un musée de la colonisation pour que nous puissions apprendre de notre histoire coloniale. C'est vraiment un manque en Belgique.
Il y a ensuite la question de l'appartenance de ces trésors, puisque ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont été pillées.
Certes, il n'est pas normal que 80% de l'art africain se trouve dans des musées européens ou dans les collections privées européennes. Nous devons nous assurer un meilleur accès à nos collections. Le Congo manque actuellement de capacités pour assurer l'entretien de cet héritage.
Pourtant, pour Paul Bakwa Lufu Bandi Banga, directeur général de l'Institut des musées du Congo, la question de la sécurité n'est pas une excuse suffisante.
Donc la sécurité, ça ne doit pas être un problème. Un prétexte pour ne pas restituer des objets.
La réorganisation de cette célèbre institution a obligé la Belgique à faire face à son passé colonial. Pour ceux qui soutiennent le projet, c'est un pas de plus sur le long chemin de la réconciliation.
Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a annoncé sa démission hier, au lendemain de l'annonce par Donald Trump du retrait des troupes américaines de Syrie. Après l'ancien chef de la diplomatie Rex Tillerson, le général John Kelly, secrétaire général de la Maison-Blanche, quitte aussi ses fonctions. Comment expliquer ces démissions en cascade et ces limogeages au sein de l'administration Trump? Pour une réponse, Idriss Fall a joint Brett Bruen, président du groupe de réflexion washingtonien Global Situation Room.
C'est une tragédie pour la sécurité nationale des États-Unis. Le général Mattis, c'était quelqu'un très respecté dans la profession militaire partout dans le monde. Et aussi, beaucoup de gens l'ont vu comme quelqu'un qui pourrait modérer un peu les tendances dangereuses du président Trump.
D'abord, les effets du retrait des troupes américaines de la Syrie.
Pour moi, ça fait partie du niveau politique de la Maison-Blanche pour changer les engagements des États-Unis vers un chemin beaucoup plus limité dans les intérêts nationaux au lieu des engagements globaux, au lieu de faire les stratégies du moyen et du long terme. Ils préfèrent les engagements de court terme et avec un peu du facteur « wow ». Qui est la préférence du président.
Si les États-Unis quittent la Syrie, c'est à l'avantage de la Russie et de l'Iran.
Sans doute, ça fait partie d'une stratégie assez bizarre. En premier lieu, on a vu la politique forte vers l'Iran. Nous sommes en train de mettre pression sur l'Iran par rapport à nos alliés européens ailleurs dans le monde. Et en même temps, on va dire en Syrie, un pays où l'Iran a eu beaucoup d'influence, on ne va pas continuer notre présence, on ne va pas freiner les actions de l'Iran, du président Assad en Syrie.
Maintenant, est-ce qu'il y a un problème au sein de l'administration Trump? Parce que les départs, il y en a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis que Donald Trump est au pouvoir.
Sans doute, on a vu l'annonce du départ de notre ambassadrice aux Nations Unies, Nikki Haley. Après, Trump a enlevé le procureur national. Et aussi, on a vu plusieurs leaders qui ont eu pas mal de respect de la part des républicains, démocrates, qui ont annoncé qu'ils ne vont pas continuer avec Trump deuxième moitié de son mandat. Et cette dernière nouvelle du général Mattis, malheureusement, représente une vague assez grande par rapport des vrais leaders dans l'administration.
Brett Bruen de Global Situation Room était joint à Washington.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Georges Léonard Sagno, à la console Dan Crafton, à la présentation Nathalie Barge. Restons en contact sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Bonne soirée à toutes et à tous en compagnie de Henri Francisque pour un rappel de l'actualité dans le monde.
Afrique.
Les infos.